Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mes lèzes tremblent être noyés.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres coins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique avant de connaître les rendez-vous, éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour. Mai 2025. Présentation d'un travail de recherche sur le lien entre production de nectar et vibrations émises par les pollinisateurs. Et gros point sur les actualités de l'été. Comment a-t-on pu découvrir que les insectes avaient une relation aussi étroite avec leurs plantes? Est-ce que cela sert vraiment à la plante de produire autant de nectar pour l'insecte qui viendra la polliniser? Quelle petite surprise allons-nous retrouver en cette rentrée de congés estivaux? L'étude en question vient démontrer que les plantes pourraient être réceptives au bourdonnement des abeilles, à tel point que leur production de nectar augmenterait même en fonction des pollinisateurs qui les approchent. En effet, à l'approche de pollinisateurs, en entendant leur bourdonnement, les plantes adapteraient leur production de nectar en l'augmentant. Les insectes opportunistes, non essentiels à la reproduction de la plante quant à eux, verraient au contraire le nectar diminuer. C'est le meuflier qui a été utilisé comme modèle pour étudier ce comportement. Des enregistrements de bourdonnement de l'abeille solitaire la plus représentée auprès du meuflier ont été diffusés auprès de l'espèce afin d'analyser sa réaction. Les scientifiques ont ainsi pu découvrir que le volume de sucre et de nectar de la plante augmentait à l'écoute de ces sons. L'expression génétique permettant le transport du sucre et la production de nectar s'en est également vue modifiée. Bien que les preuves sur les mécanismes soient encore limitées, cette étude pourrait montrer également que les plantes peuvent détecter et réagir à leur environnement malgré l'absence de cerveau, tel que l'on connaît chez nous autres mammifères. Par exemple, en situation de déficit hydrique, les plantes peuvent produire activement des sons par un processus appelé cavitation, explique Francesca Barbero, la chercheuse présentant cette étude. Le son est émis lorsque des bulles d'air interrompent le système conducteur de l'eau et créent une tension dans les tissus du xylème. On arrive en période de sécheresse. Choisir de donner une récompense à son pollinisateur préféré ou encore réagir à son environnement via des émissions de son compose des processus de stratégie d'adaptation qui permettent à ces êtres vivants d'assurer une meilleure reproduction, voire une plus importante probabilité de survie dans un environnement de plus en plus hostile. L'étude est un nouveau pas vers la compréhension de la communication des plantes vis-à-vis de leur environnement et fait également écho au déclin des pollinisateurs. Plus d'informations avec l'épisode Feuilles de chou numéro 25 sur le phénomène d'autopollinisation. Dommages collatéraux d'utilisation de pesticides ou encore victimes de la disparition de leur habitat, soit par excès d'artificialisation des terres et autres détériorations d'habitat, soit suite à des événements climatiques extrêmes, sécheresse, inondations, température élevée la nuit, les pollinisateurs diminuent en nombre d'individus par espèce, voire même en nombre d'espèces tout court depuis quelques décennies. Pour rappel, selon l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, 37 à 40% des abeilles sont menacées d'extinction. Cette nouvelle, qui vous intrigue peut-être et révèle encore notre ignorance face au monde du vivant, n'est pas arrivée seule durant nos congés estivaux. Elle a largement été évincée par le débat portant sur la loi du plomb, sujet du précédent épisode Feuille de Chou, et qui, in fine, malgré une grande mobilisation aboutissant au retrait des pesticides les plus à risque, a quand même donné lieu à une loi favorable à l'élevage intensif et aux grandes retenues d'eau. Cette loi a donc été adoptée le 7 août par le Conseil constitutionnel. Il peut se passer beaucoup de choses en un été, et les mois de juillet et août 2025 n'ont pas dérogé à la tendance des dernières années. Allez, on se fait un petit point, histoire de commencer la rentrée, l'esprit riche de conversation sur le vivant. Lundi 7 juillet, après les crédits carbone, c'est au Crédit Nature de se présenter à la Commission européenne. Le but étant, si cette mesure vient à être adoptée, d'encourager les investissements privés dans des actions de protection de la nature et récompenser ceux qui entreprennent ces actions ou les soutiennent financièrement. Ce mercredi 9 juillet a été publiée au Journal officiel la liste des invertébrés de la faune marine protégée sur l'ensemble du territoire national. Ce texte ajoute 36 espèces aux 7 protégées depuis 1992. Gastéropodes, coraux et éponges ont donc une nouvelle distinction d'espèces protégées, leur permettant peut-être, à terme, une protection de leur habitat. Maintenant, on est au 24 juillet. Le plan d'action pour la préservation des sols forestiers a été lancé, se déclinant en 5 axes, pour notamment conserver les services écosystémiques associés à ces milieux. Projet dans les tuyaux depuis 2022, il compte en outre réduire le compactage des exploitations forestières dues au passage des engins. Le lendemain, vendredi 25 juillet, marquait la fin de la 30e session de négociations internationales sur l'exploitation des fonds marins. Cette session s'est achevée sans code minier ni moratoire. Les violations du droit international seront toutefois potentiellement examinées. Direction le 29 juillet maintenant, publication du rapport de la mission Moyens publics et pratiques dommageables à la biodiversité, dans lequel l'Inspection générale des finances et l'Inspection de l'environnement font le point sur les pratiques dommageables à la biodiversité et utilisant des fonds publics. Le bilan fait ressortir que 26% des soutiens publics à l'agriculture sont à revoir au regard de leur impact défavorable sur la biodiversité et afin d'être en adéquation avec la Stratégie nationale sur la biodiversité 2030. Maintenant, mois d'août, le 1er août 2025, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé les conditions dans lesquelles les interdictions de la directive oiseaux sont susceptibles de s'appliquer pour une activité dont l'objet est autre que la capture, la mise à mort ou la perturbation d'oiseaux. Ce qui veut dire que désormais, même l'abattage dans certaines forêts pourrait être régulé si une espèce de la directive oiseaux, une espèce protégée, y est représentée. Le 28 août maintenant, la France repousse le moratoire sur la chasse demandé par Bruxelles pour plusieurs espèces en très mauvais état de conservation. Pour l'instant, le pays préfère appliquer des quotas de prélèvement dont le contrôle demeure très difficile à assurer sur le terrain. Les 9 espèces concernées, le canard siffleur, le fuligule milouin, la caille des blés, la grive mauvie, le canard souché, le canard pilé, la sarcelle d'hiver, le goéland marin et le goéland argenté sont en situation de conservation non garantie. Les évaluations scientifiques ont conclu un risque élevé de non-durabilité de la chasse, avertit la Commission européenne dans une note datée du 30 juin 2025. Intense cet été, vous ne trouvez pas ? Et c'est à ce moment que je vous propose de vous plonger avec moi dans un conte fantastique, histoire de reposer ne serait-ce qu'un instant ce cerveau qui fulmine déjà. Achille et la rivière. Chez Achille, il y a un chien qui aboie pour un rien, un chat qui court dans tous les sens, 3 canaris qui sifflent dès que le jour se lève, 2 furets qui font les fous dans leur cage, une petite sœur qui chante et danse tout le temps, une moyenne sœur qui joue de la trompette, une maman qui joue de la guitare électrique, 2 grands frères qui se disputent et se battent sans arrêt et un papa qui écoute du rock à fond dès qu'il rentre du travail. Il y a aussi 2 télévisions, 2 ordinateurs allumés du matin jusqu'au soir, du bazar partout. Des murs couverts de dessins, tout le monde s'y est mis, les frères, les sœurs, la mère et même le père. Des invités tout le temps. Et même des gens qui ne sont pas invités mais qui viennent quand même et ne repartent qu'à minuit. Parfois, Achille en a marre. Il n'en peut plus. de tout ce bruit, toute cette agitation, tout ce désordre. Alors il sort et va se promener le long de la rivière, enfin seul. C'est une rivière verte et silencieuse. L'eau coule entre les cailloux sans faire le moindre bruit. Du coup, on entend surtout les arbres qui frissonnent. Achille aime bien parce que c'est calme. Ça le change de chez lui. Parce que c'est beau aussi. Les reflets du soleil à la surface, les cailloux mouillés qui prennent des couleurs d'automne, les endroits où il y a si peu d'eau qu'on ne la voit presque plus. Achille enlève ses chaussures, il marche dans la rivière, invisible et fraîche. C'est doux et ça glisse un peu. Au bout d'un moment, la rivière disparaît tout à fait, comme si elle coulait sous la terre et il ne reste plus que les herbes hautes et des plantes étranges où se reposent des grenouilles. Des oiseaux et des papillons. Achille marche encore un peu, parfois il doit baisser la tête à cause des méduses. Vous savez, celles qui flottent en tombant lentement du ciel. On dirait des parachutes. Elles ne sont pas aussi dangereuses qu'elles en ont l'air. Si, par hasard, elles le touchent, ça ne fait rien. C'est juste un peu gluant. Arrivé au grand rocher orange, Achille attend. Il n'a que ça à faire. Parfois, Angelo arrive tout de suite. Parfois, ça prend une heure ou deux. Parfois, il ne vient pas du tout. Ça dépend. On ne sait pas de quoi, mais ça dépend. Aujourd'hui, Angelo arrive au bout de 10 minutes. Il est ouvert, comme d'habitude, et porte une serviette autour du cou parce qu'il sort de son bain.
Ça fait du bien.
Dit-il. Achille ne fait pas attention. À chaque fois qu'il le voit, Angelo sort de son bain, à croire qu'il pose sa vie dans l'eau, ce qui serait normal vu que c'est le gardien de la rivière. Enfin, c'est ce qu'il dit.
Alors, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui ?
Achille hausse les épaules, Angelo lui pose toujours cette question. Achille ne sait pas quoi répondre, il veut rien en particulier, il aime juste la rivière, le calme. Et bavarder avec Angelo. Malgré sa drôle de tête de grenouille à cheveux longs, malgré sa peau verte et fripée.
Je ne veux rien,
dit Achille.
Juste un peu de calme. Chez moi, il y a trop de bruit tout le temps. Ça bouge trop. C'est trop le bazar. J'arrive pas à me concentrer.
À te concentrer à quoi ?
Sur mes pensées.
Mais quelles pensées ?
Bah, je sais pas, justement. J'arrive pas à les entendre.
Achille regarde sa montre, il doit repartir. Il va être en retard pour le déjeuner. Même s'il n'y a pas vraiment d'heure pour le déjeuner, même si personne ne déjeune jamais en même temps dans cette maison. Il salue Angelo, puis refait le chemin à l'envers. Les méduses remontent lentement vers le ciel. L'eau sort de terre et recouvre bientôt les herbes, les plantes étranges, les oiseaux, les grenouilles et les papillons. Puis le silence se brise et on entend le bruit de la ville. Les voitures, les voix des gens, les chiens qui aboient, les trains et les avions. Achille rentre chez lui et tout a changé, sa mère lit en silence, assise dans un grand fauteuil près de la fenêtre. Ses deux frères font sagement leurs devoirs, l'un à côté de l'autre. Ses deux sœurs jouent dans leur chambre, personne ne chante, personne ne danse, personne ne se dispute et il n'y a aucun invité nulle part. Achille fait le tour de la maison, le chien dort, le chat aussi. Dans leur cage, les furets sont parfaitement immobiles, les canaris sont muets. La télévision, les ordinateurs, la chaîne EFI sont éteints. Tout est si silencieux et les pièces sont si parfaitement rangées. Chaque chose a sa place. Rien ne traîne, plus un dessin sur les murs. On pourrait croire que personne ne vit là. Achille retourne au salon. Personne ne fait attention à lui, personne ne l'embête, personne ne se moque de lui. Il s'adresse à ses sœurs et lui répondent.
Tu vois bien que nous sommes occupés.
Leur voix est si calme et si sérieuse qu'il n'est pas sûr de les reconnaître. Il va voir sa mère et elle lui demande de ne pas la déranger.
« Tu vois bien que je lis !»
dit-elle. Il met un disque et ses frères se mettent à râler.
« Tu nous déconcentres ! Tu vois bien qu'on fait nos exercices »
disent-ils. Achille s'assied dans le canapé, il regarde autour de lui, il écoute le silence. Il n'y a pas un rire, pas un cri, tout le monde parle à voix basse. On entend le bourdonnement du frigidaire. Ça dure des heures. S'ennuie, il se sent triste, il a un peu froid, il a envie de pleurer. Alors il ressort de la maison, il longe la rivière, les méduses, les grenouilles, les papillons, les herbes hautes et les plantes bizarres. Il arrive au gros rocher orange et Angelo est déjà là.
J'allais prendre mon bain,
dit-il.
Qu'est-ce que tu veux ? Que tout redevienne comme avant. T'es sûr ? Oui, c'est trop triste. Tout se calme. Triste ? Oui, ça donne envie de pleurer. Ça donne froid. Et tes pensées ? On ne pense à rien de bien quand on est triste et qu'on a froid. Comme tu voudras.
Achille rentre à la maison. Angelo l'accompagne. Quand il nage dans la rivière, il prend la couleur de l'eau. Du coup, on ne le voit plus. On entend juste son rire joyeux. Quand il nage, il rit. Tellement il aime ça. Tellement c'est doux et frais. Tellement ça glisse. À la maison, tout est comme avant. Le chien aboie pour un rien. Le chat court dans tous les sens. Les canaris sifflent à tue-tête. Les furets font les fous dans leur cage. La télévision et les ordinateurs marchent tous en même temps. Ses frères se battent pour la télécommande. Sa petite sœur chante à pleine voix. Sa moyenne sœur souffle dans sa trompette. Sa maman joue de la guitare électrique. Tout est en désordre. Il y a des invités qui boivent un café dans la cuisine et parlent de musique, de livres et de cinéma. Son père rentre du travail, met un disque et commence à danser comme un fou. On n'entend plus le frigidaire. C'est la vie. C'est bien. Achille n'est plus triste. Il n'a plus froid. Il a juste envie de prendre un bon bain. Les insectes se sont fourrés dans tous les aspects de notre quotidien aseptisé. Invisibles, ils guident les grands gourmands et aident les jolies vertes à s'épanouir avant parfois de les digérer. Et si ce petit monde qui grouillait donnait l'inspiration pour créer de nouveaux horizons? Certains artistes s'y essayent déjà. D'un côté, on retrouve Tessa Farmer, une artiste plasticienne qui dresse l'étrange et le bizarre dans des scènes fantastiques. Son travail, réalisé à partir de carcasses d'insectes, de racines de plantes et d'autres matériaux naturels, comprend des installations suspendues, représentant des batailles, telles les batailles de Bosch, entre des insectes et de minuscules humanoïdes squelettiques et lits. De l'autre côté, on peut s'amuser avec John Kerf, un plasticien qui expose aux environs de Los Angeles des toiles grand format abstraites. Il a fait faire par des myriades de mouches abreuvées d'un sirop de sucre coloré renouvelé chaque jour. Enfermées avec une toile blanche disposée verticalement, celle-ci s'y pose et régurgite des gouttes de bave de vomi qui voient colorer et s'accumuler. Elles finissent par recouvrir toute la surface. Ce pointillisme version vomi organique a donc intégré de nombreux musées en quête d'originalité. Il y a Jean-Pascal le Rignal et Loïc le Lombric et Nicolas le Koala et Chloé l'Araignée et Annie le Ouistiti et Hector l'Alligator. Le vivant s'invite tous les jours à notre table et dans nos mirettes. Faut-il pouvoir être encore à même de lui compter fleurette? Et Arnaud le chameau, et Cécile le mandril, et Eric le porc épic, et Eric le nazique. Enfin zit, c'est quoi ce bouffon là, il a le même prénom que moi là. Mais on s'en fout, c'est une chanson. Ah non bah je suis pas d'accord, hein, c'est qu'il y a embrouille là, Gronaz et toi c'est quoi là, que j'ai le même prénom. Comment ça Gronaz, tu te fous de mon espèce là, c'est ça? Ouais, les nastazik, nazik, t'il nazik, t'es Gronaz, t'il nazik de... Bon c'est bon, vos gueules les animaux maintenant, hein. Bon on en était où là? Ah oui. Et il y a Louis le grizzly et Augustin le lamantin et Sylvie le coati et Virginie le diable de Tasmanie et Herbert le dromadaire et Aurélie l'ocapi et Bertrand le footbassant. Tu as pêché où, baobab, acajou? Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une passionnée du vivant, cuisinée. Aux petits oignons. Des landes palissandres, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.